Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce dimanche, c'est une émission particulière. C'est en effet la dernière fois que je présente Religion du Monde. À l'occasion de mon départ de RFI, où pendant près de 30 ans, j'ai suivi la vie des religions, la première édition de Religion du Monde remonte à 1993, eh bien c'est le moment de jeter un regard rétrospectif sur ces trois décennies d'actualité des religions et d'y déceler les mutations en cours. Qu'est-ce qui a changé au cours de ces 30 années? Que l'histoire retiendra-t-elle? Que retenons-nous, nous? Quels ont été les événements qui nous ont marqués? Comment les médias ont-ils accompagné le fait religieux? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai choisi d'inviter des journalistes spécialisés, comme moi, dans l'information sur les religions. Nous ne serons pas exhaustifs, il y aura nécessairement une part de subjectivité, mais nous tenterons de dégager ensemble les faits saillants, les tendances lourdes. En studio, Samuel Liévin, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le Pèlerin du groupe Bayard, Mohamed Collin, cofondateur de Saphir News, un quotidien en ligne du fait musulman et du magazine trimestriel Salam News. En duplex du studio de France Bleu Auxerre, Bernard Lecomte, journaliste, essayiste, spécialiste de la papauté, qui vient de publier aux éditions Talendier « Ces chrétiens qui ont changé le monde ». Nous entendrons également la journaliste et essayiste et écrivain franco-tunisienne Faouzia Zouari, Thomas Valu, producteur sur France 2 de l'émission « Chrétiens orientaux », et puis également le journaliste Philippe Clancher. À vous tous, bonjour.
Bonjour.
Et merci.
Bonjour.
Et merci pour cette participation à cette émission, j'allais presque dire conclusive. Alors, vous avez entre 20 ans et plus de 40 ans de métier dans le journalisme d'information sur les religions, qu'on en appelait autrefois l'information religieuse. Qu'est-ce qui, entre le moment où vous avez commencé et aujourd'hui, a changé dans la nature de l'information que vous traitez? Est-ce que l'on peut parler d'un autre monde? Quels sont les faits saillants qui vous ont marqué? Alors, je commence avec vous, Bernard Lecomte, âge oblige.
Bernard, on avait dit qu'on ne parlait pas d'âge.
Bon, on avait dit qu'on ne parlait pas d'âge, mais quand même, vous êtes notre vétéran dans le domaine de l'information sur les religions. Alors,
oui, j'accepte l'apostrophe. J'ai commencé, moi, à La Croix en 1977. Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui. Pour répondre à votre question, elle est très large, cette question. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que lorsque j'ai commencé dans ce métier, l'information religieuse avait la même place que l'information politique, l'information scientifique, l'information littéraire, alors que, à l'évidence, tout a changé. Cette information religieuse est devenue marginale, et c'est un effet, bien sûr, du phénomène le plus important de toute cette période, qui est une déchristianisation de notre société, de nos sociétés d'ailleurs. Déchristianisation qui est un phénomène sur le long terme, mais on l'a bien vécu là ces dernières années. Disons, depuis mai 68, c'est un peu une simplification historique, mais grosso modo, c'est quand même à partir de mai 68 qu'on a vu l'évolution à la fois générationnelle et civilisationnelle qui ont fait que voilà, la transmission ne se fait plus en matière de religion et ça a des conséquences culturelles, morales, évidemment pour nous journalistes, absolument capitales et permanentes.
Effectivement, là, je pense à beaucoup de livres, d'ailleurs, hein, qui sont publiés sur le sujet, notamment celui de l'historien Guillaume Cuchet, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement ». C'était au Seuil en 2018. Et ensuite, il a récidivé avec « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» Et il cite des chiffres. Aujourd'hui, effectivement, la pratique dominicale, c'est 2%. 2% la pratique dominicale. Je me tourne vers vous, Samuel Liévin. Vous avez commencé, alors vous êtes plus jeune que Bernard Lecomte, vous avez commencé à Radio Vatican, c'est en 2000, c'est ça
hein? En 2000, donc j'ai travaillé sur un échantillon, pardon Bernard, deux fois moindre, enfin, qui est la moitié hein, sur le plan, je dirais, chronologique par rapport à Bernard. Et c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, parce qu'effectivement, lui, il a été témoin de ce cycle, je dirais, de toujours pas fini d'ailleurs, de déchristianisation, de sécularisation. Et là, je dirais que je suis entré au milieu dans la danse. Et qu'est-ce qui se passait en 2000 à Rome? C'était le pape Jean-Paul II, triomphant, qui faisait entrer l'Église dans le troisième millénaire et qui avait justement pour ambition, lui, qui venait d'un monde qui avait été, qui avait traversé plus de 50 ans de régime communiste athée, eh bien, essayer de réaffirmer le rayonnement de l'Église dans le monde. Et quelque part, au plan mondial, sous son pontificat, comme en France, l'Église était marquée quand même par ce mouvement, par cette tentative de retour en force. Et 20 ans plus tard, eh bien, on se parle à un moment où cette tentative a fait patatras, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu les enquêtes sur les abus sexuels, tous les scandales, à la fois d'abord au plan international, puis en France. Et donc, on a un peu l'impression que tout ça est déjà loin derrière nous et finalement, on n'est pas parvenu à enrayer ce vaste mouvement dont Bernard a parlé.
Ouais, c'est déjà un autre monde. Alors moi, ce qui m'a frappé, Samuel Yeven, c'est le titre tout à fait récent de votre magazine de l'édition du jeudi 12 mai. C'était à propos précisément des canonisations à Rome, notamment de Charles de Foucault et de Pauline Janicot. Et votre titre, c'était « Les saints sauveront-ils l'Église ?» Alors effectivement, quand on lit un titre comme celui-là, on se dit « ça ne va pas bien là en ce moment ».
Mais justement, c'est comme cette Église, à la fois, elle est en train de disparaître de l'écran et elle est discréditée notamment au plan institutionnel et également les grandes figures qui l'ont longtemps incarnée, qui ont aussi été touchées par tous ces scandales. Les gens ont tendance à se détourner, c'est déjà un phénomène avancé de l'institution, et donc à se rattaché à des figures qui incarnent avec éclat la simplicité de l'Évangile et au fond, avec des siècles de mise à l'essai, ces saints-là, aujourd'hui, finalement, même s'ils peuvent paraître un peu vieillots, un peu poussiéreux, au fond, donnent un témoignage de foi beaucoup plus simple et lumineux, plus facile à s'approprier, j'allais dire individuellement, plus humble aussi. Et d'ailleurs, le pape François lui-même, aujourd'hui, fait la promotion d'une sainteté à portée de tous, au fond. Et c'est ça que les gens, aujourd'hui, vont rechercher principalement.
Et d'ailleurs, Samuel Yeven, ce qui est intéressant, c'est que ce titre de votre magazine, il y a quelques semaines, fait écho au livre de Bernard Lecomte, « Ces chrétiens qui ont changé le monde », donc publié chez Talendier. Bernard, vous avez choisi effectivement des figures, 12 figures chrétiennes, de Martin Luther King au cardinal Etchegaray, en passant par Edmond Michelet et le général de Gaulle, pour ne citer que, ces chrétiens qui sont des modèles.
Oui, ce sont des figures extrêmement différentes les unes des autres, dont le seul lien est la foi chrétienne. Et ces figures, ces 12 figures, incarnent le christianisme qui est en train de disparaître ou d'être marginalisé. C'est la même idée que Samuel. C'est-à-dire que je crois qu'il faut bien distinguer dans notre réflexion la fin de la chrétienté, c'est-à-dire la marginalisation d'une civilisation qui commence à partir, et le déclin du christianisme. Ça n'est pas la même chose. La fin de la chrétienté, c'est un problème de civilisation. Le déclin du christianisme, c'est un problème de foi. Et tant qu'il y aura 12 apôtres ou 12 saints ou 12 figures pour incarner ce christianisme ne sera pas mort. Ce christianisme est né avec 12 personnes. Tant qu'il y aura 12 personnes, ce christianisme sera ce qu'il est. Donc je crois qu'il est important de bien distinguer ça, le christianisme, c'est-à-dire la religion, la foi, et par ailleurs la chrétienté. Je fais allusion évidemment notamment au livre de Chantal Delsol qui est paru récemment et qui porte ce titre. Et ça n'est pas le même sujet. Je crois qu'on est en fait bouleversés les uns les autres par la fin de la chrétienté, parce que ça touche beaucoup plus de sujets justement en matière de culture, en matière de politique, de morale, etc. Alors que au fond, le christianisme continue d'évoluer. Le christianisme, ça n'a pas été un triomphe pendant 2000 ans, il ne faut pas croire ça. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une étape de ce christianisme et nous sommes dans un déclin de la chrétienté.
Je me tourne vers vous, Mohamed Collin, donc cofondateur de Saphir News, un quotidien en ligne qui a aujourd'hui 20 ans, qui est suivi par combien à peu près de personnes? Vous avez une idée?
700 000 visites par mois et puis au mois de Ramadan, à peu près 1,2 million.
Voilà. Alors, vous, j'allais presque dire, c'est un peu le contraire qui se passe, parce que apparemment, mais là encore, il faudrait bien étudier malgré tout les chiffres et les pratiques, l'islam se porte bien. Mais c'est plus complexe qu'il n'y paraît.
Oui, voilà, c'est absolument beaucoup plus complexe. Peut-être rappeler l'événement saillant qui a d'ailleurs présidé à la création de saphirnews.com, c'est le 11 septembre, donc événement tragique. Et là, on a eu un surplus, un trop-plein d'informations sur la question de l'islam. et traité souvent sous des angles géopolitiques et sécuritaires. Et jamais, ou pas souvent, sous les angles humains, sous la pratique religieuse, la foi, la dimension également culturelle. Et c'est la raison pour laquelle on a été amené à créer SaphirNews.com.
Alors, quel regard portez-vous sur ces 30 années concernant l'islam ?
En France, on va dire que l'islam, ces 30 années, témoigne en fait de l'enracinement sur le sol français, c'est-à-dire la sédentarisation de l'islam. C'est vrai que, on va dire que la date qu'on retient souvent, c'est 1989.
Creil.
C'est-à-dire l'affaire de Creil, tout à fait.
Le
l'affaire
foulard.
Dite des foulards. Cette affaire qui aurait dû être finalement locale et traitée localement, c'est devenu une affaire nationale et qui a saturé tous les médias jusqu'à ce que, à l'époque, c'est Lionel Jospin, intervienne. Et d'ailleurs, ce qu'il avait dit, c'est on essaie de discuter. Idéalement, c'est que les jeunes filles enlèvent le voile. Si elles ne l'enlèvent pas, on les accepte parce que le rôle, c'est quand même d'éduquer. Il y a eu un énorme débat et c'est allé jusqu'au Conseil d'État.
Et puis après, il y a eu la loi.
Il y a eu
la loi donc interdisant les signes religieux à l'école.
En 2004, absolument.
2004.
Tout à
hein?
fait. Voilà. Donc, tout simplement, effectivement, je rappelle cet événement, c'est que, en fait, le fait musulman l'avait traité au départ comme un fait migratoire. C'est-à-dire qu'on pensait que les populations, malgré qu'il y ait eu le rapatriement familial en 1974, mais on n'a pas pensé la question religieuse, et notamment du fait musulman. 1989, c'est là où, politiquement, on commence à penser la question du fait musulman. Et à partir de là, pour l'État, ils ont besoin d'un interlocuteur, et donc il va y avoir tout un certain nombre de dispositifs qui vont être mis en place, c'est-à-dire le CORIF à l'époque, qui a été créé par Pierre Joxe, qui était ministre de l'Intérieur. Et ces 30 années, en fait, pour moi, incarnent le fait qu'on n'avait pas d'interlocuteur sur la question du fait musulman, parce qu'on l'avait pensé comme migratoire. 30 ans plus tard, le 5 février 2022, on installe au Palais Iéna, donc le FORIF, le Forum de l'Islam de France, par le ministre de l'Intérieur, et avec des acteurs qui sont issus des territoires.
Du terrain.
Donc, du terrain, absolument.
En fait, l'islam souffrait, comme d'ailleurs, effectivement, comme ça peut être le cas en politique, d'un manque de terrain.
Un manque de terrain, complètement.
Ouais.
On mettait des symboles, mais qui n'étaient pas du tout opérants.
Et ce que vous ne dites pas, Mohamed Collin, c'est qu'il y a aussi une sorte d'affranchissement par rapport aux tutelles, aux pays.
Oui.
Dont dépendent, hein, quand même.
Absolument, tout à fait. Absolument, c'est la grande problématique, ce qu'on appelle deux choses, l'islam consulaire et l'islam transnational, c'est-à-dire idéologique.
C'est ça, donc voilà. Un affranchissement.
Total.
Alors, émancipation, allez, c'est le mot, non ?
Émancipation, absolument. Et puis, c'est une nouvelle page qui est en train de s'écrire. Donc maintenant, on attend de voir.
Une page positive.
Absolument.
Vous écoutez Religion du Monde. Nos invités sont Mohamed Collin, Samuel Yeven et Bernard Lecomte pour précisément jeter un regard rétrospectif sur les 30 années de faits religieux. Alors, Samuel Yeven, vous évoquiez vos années 2000 à Rome. Nous allons aller vers 2005, hein, l'année de la mort du pape Jean-Paul II et du tournant que cela représente. Et j'étais à ce moment-là, ce jour-là, le jour des funérailles, ce 8 avril 2005 à Rome.
Les pèlerins qui ont passé la nuit dehors ont replié leurs sacs de couchage. Désormais, c'est une foule dense contenue par des dizaines de milliers de policiers qui attend le début de la cérémonie. Alors, on remarque la présence de nombreux jeunes venus avec leur paroisse ou spontanément rappelant les journées mondiales de la jeunesse. La messe, présidée par le cardinal allemand Joseph Ratzinger, doyen du Sacré Collège, sera co-célébrée par les cardinaux et le patriarche et les patriarches des églises orientales rattachées à Rome. Des chants grégoriens ouvriront la messe des funérailles d'un pape déjà entré dans l'histoire et béatifié par la foule. Geneviève Delerue, place Saint-Pierre de Rome, RFI.
Alors, je me tourne vers vous, Bernard Lecomte, auteur de nombreux ouvrages sur la papauté. Cette mort de Jean-Paul II et aussi cette béatification quasiment instantanée a posé quand même problème après. Donc on se souvient effectivement, le pape Jean-Paul II a été béatifié le 1er mai 2011, canonisé le 27 avril 2014, mais le jour de ses funérailles, il était déjà canonisé par la foule. Or, effectivement, après la crise de la pédophilie, eh bien, des voix se sont élevées. Je pense à la journaliste Christine Pedotti, qui a écrit un livre qui s'intitule « À l'ombre du saint », qui rappelait que le cléricalisme avait fait beaucoup de mal et avait été un vecteur en quelque sorte, qui avait favorisé la crise de la pédophilie dans l'Église. Bernard Lecomte.
Oui, je dirais, avec tout le respect que j'ai pour Christine Pedotti, que je connais bien, et je dois dire d'ailleurs que son livre est tout à fait excellent, parce que quand on le lit attentivement, on voit bien que l'auteur prend des gants avec cette espèce de facilité de dire « oui, mais du temps de Jean-Paul II, cléricalisme, pédophilie, etc. » Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, et je dois dire qu'il faut bien distinguer que le grand tournant, c'est en 2001, lorsque le cardinal Ratzinger, qui est à ce moment-là le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, convainc le pape Jean-Paul II, le pape polonais, qu'il faut prendre cette affaire de pédophilie à bras-le-corps. Rappelons qu'à l'époque, le cardinal Sodano, le cardinal Re, le cardinal Castrion Hoyos étaient contre ça. Il y a eu une bagarre au sein du Vatican à l'époque et cette bagarre a été emportée par le cardinal Ratzinger, à qui l'Église doit énormément dans cette affaire. Parce que lorsqu'on prend le temps long, lorsqu'on examine tout ça, on se rend compte que heureusement qu'à partir de 2000-2001, Jean-Paul II a effectivement fait confiance à Ratzinger pour reprendre tout ça en main. Alors, ça ne veut pas dire que tout est beau et qu'il s'est passé que des choses magnifiques. On se souvient que le scandale Machiel, vous vous rappelez, ce personnage
bien
peu
sûr,
fréquentable,
mexicain,
qui était un proche de Jean-Paul II et un proche du cardinal Dziwisz, Machiel était, un vrai scandale vivant. Et là aussi, c'est Ratzinger qui a coincé Machiel, et Machiel est mort avant qu'on ne le juge. Mais ça a été un moment très compliqué. Mais ce serait franchement dommage de reprocher à Jean-Paul II, après ses 27 ans de règne, où il a fait tant et tant pour l'Église, de se bloquer sur cette bagarre qu'il y a eu en 2001 entre plusieurs cardinaux de la Curie à propos, justement, de l'affaire pédophile. Moi, je crois qu'il faut quand même rappeler surtout que Jean-Paul II, c'est le thème de notre émission, Jean-Paul II, il a fait faire à l'Église quelque chose d'inouï. Il a accompagné la mondialisation. Le monde entier, après la fin du communisme, après la chute de l'URSS, le monde entier s'est mondialisé sur le plan économique, culturel, civilisationnel. Et Jean-Paul II a été ce pape universel. Il était polonais, il n'était pas italien, et ça a certainement joué. Ce pape polonais a accompagné, a aidé l'Église à accompagner la mondialisation. Et c'est ce souvenir-là qu'il faut garder de Jean-Paul II. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le temps s'est accéléré, l'histoire va plus vite. Et donc, on a un peu déjà oublié tout ça. Aujourd'hui, la vie, l'actualité, l'immédiateté nous étreint et nous force à oublier le temps long. Reprenons un petit peu de sérénité, voyons le temps long et observons justement que le pontificat de Jean-Paul II a été un vrai tournant pour l'Église et qu'aujourd'hui, tout ça, comme le reste, est en train de disparaître un petit peu dans cette marginalisation dont nous parlons depuis tout à l'heure.
Samuel Yévan.
Oui, alors tout à l'heure, en plus Bernard faisait un distinguo très intéressant entre l'effondrement civilisationnel du christianisme, le christianisme comme civilisation et le christianisme comme religion. Et si on tire le fil 20 ans après, Parce que c'est vrai que Jean-Paul II, bon, je fais partie de cette génération quand même qui se dit au fond génération Jean-Paul II malgré tout. Puisque,
celle des JMJ, des Journées Mondiales de la Jeunesse.
Voilà, ce pape, on l'a enterré à 30 ans. À l'époque, j'étais journaliste à La Voix du Nord, je ne m'occupais pas encore de religion, mais je me souviens que notre journal avait titré le monde enterre son curé. Donc, c'est dire l'émotion populaire ressentie au niveau planétaire. Et c'est vrai que 15 ans après, j'ai envie de parler d'un double événement qui nous a marqué récemment. Je parle de l'opinion en général, pour bien illustrer cette différence entre civilisation et foi. La civilisation, c'est Notre-Dame qui brûle en 2019. Et on voit quand même l'impact populaire, universel, cette marée humaine qui s'est subitement réunie autour de la cathédrale en flammes dans la nuit, et puis les médias du monde entier tournant en boucle en disant « va-t-elle s'écrouler ou pas ?» Là, on sentait qu'il y avait comme une prise de conscience. J'en dis pas plus, ce serait long à développer, mais c'est vrai que nous, on le voit bien comme journal catholique populaire, que depuis, ça continue de nourrir notre...
Vous êtes très attaché au patrimoine.
Au patrimoine, et c'est vrai qu'on sent bien que ça a humainement déjà rallumé quelque chose. Et c'est l'assassinat aussi du père Hamel.
Du père Jacques Hamel, absolument.
Du père Jacques Hamel, converti en une véritable, là, pour le coup, prise de conscience spirituelle de ce qu'est ce christianisme au service des plus humbles, je dirais, dans la discrétion la plus totale. Et c'est ce qu'a incarné, au moment où il est mort, le père Hamel. Et je crois que là, on a les deux versants actualisés du christianisme.
Tout à fait. Et je ferai même deux remarques. Pour la cathédrale Notre-Dame, des musulmans ont donné de l'argent pour sa restauration. Ça, c'est très important à dire.
Absolument, effectivement. Je partage la même analyse. Hein. Ça veut dire que Notre-Dame, c'est un monument universel, au fond. Oui. Et les musulmans sont également attachés.
Et j'ajoute aussi que concernant le père Hamel, sa sœur, que je rencontre souvent, Roselyne Hamel, est par ailleurs devenue amie de la maman de l'un des assassins qui sont entrés, de l'un des terroristes qui sont entrés dans l'église ce matin-là à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Absolument.
Et c'est une amitié, c'est d'abord une amitié, et c'est aussi une rencontre entre deux femmes croyantes, l'une chrétienne et l'autre musulmane.
Et elles se sont soutenues pendant le procès.
Tout à fait.
Ça, effectivement, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, la communauté de Saint-Étienne-du-Rouvray, la communauté musulmane, a été véritablement bouleversée et est venue à l'église. Elle a assisté à la messe.
Oui, complètement. Nous, on a eu également des retours. Et d'ailleurs, on avait publié, lors de cet événement, un appel de résistance, justement, et à cultiver l'esprit d'amitié entre musulmans et chrétiens.
Il y a un prix, Jacques Hamel.
Il y a un prix Jacques Hamel que délivre la Fédération des médias catholiques depuis donc 2018 qui récompense chaque année tout média et tout support confondu une œuvre journalistique qui favorise le dialogue entre les religions.
Absolument. Bernard Lecomte, je me retourne vers vous. La démission de Benoît XVI en 2013, ça c'est quand même un événement extrêmement marquant. Jamais dans l'histoire. En tous les cas, si bien sûr il y a eu, je crois, un pape dans le passé, mais il y a très longtemps, jamais dans l'histoire un pape n'avait démissionné.
Alors moi, je serais plus prudent que vous, Geneviève. Pourquoi ? Pense que c'était un événement, en effet.
Ah oui.
Mais ça n'est pas un grand tournant dans l'histoire de l'Église. Je dirais que c'est une sorte de mini aggiornamento qu'on doit à ce pape étonnant que fut Benoît XVI et qui, en effet, a démissionné comme l'avait fait naguère au XIIIe siècle le pape Célestin V.
C'est celui-là
que vous pensiez.
Oui, mais moi, ça m'a fait un choc. Je vous avouerai que le jour où on vous téléphone, Geneviève, qu'il faut que tu viennes tout de suite à la rédaction parce que le pape Benoît XVI a démissionné, en tant que journaliste, Bernard, ça fait un choc.
on est bien d'accord. Mais encore une fois, revenons sur le temps long.
Oui.
Je pense, franchement, que cette réforme, au fond, qui ne touche au fond qu'à la discipline, peut-être à la tradition, mais en aucun cas à la doctrine ou au dogme du christianisme. C'est une réforme relativement mineure parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, en fonction de la prolongation de la vie, de la santé des uns et des autres, eh bien, tous les papes finiront par démissionner un jour quand ils ne pourront plus assumer.
Comme François, vous pensez qu'il le fera, François ?
Oh, je suis sûr qu'il le fera. D'ailleurs, il l'a laissé entendre il y a quelques années. Je veux revenir sur ces deux cas-là qui m'ont beaucoup frappé, moi aussi, l'incendie de Notre-Dame et l'assassinat du père Hamel. Je crois que ces choses-là ont fait plus progresser le christianisme et le sentiment religieux que cette réforme de la démission du pape. Moi, j'étais, vous savez, dans les deux événements en question, j'étais consultant dans une chaîne d'info concurrente et j'ai vécu ça avec beaucoup d'intensité parce que j'étais dans un cadre extrêmement laïque, pas du tout religieux. Et j'ai mesuré, là aussi, je pense que ça fait le thème de notre émission d'aujourd'hui, j'ai mesuré à cette occasion une évolution très importante. C'est l'incroyable inculture religieuse qui a gagné notre société, qui a gagné nos leaders d'opinion et qui a gagné, disons-le franchement, beaucoup de nos confrères journalistes. Et j'ai vécu ça d'une façon très étonnante parce que ce qui était inimaginable il y a 30 ans, c'est que pour un événement comme l'incendie de Notre-Dame ou l'assassinat du Père Hamel, il fallait tout expliquer, le moindre mot, la moindre expression. C'est à peu près comme lorsque les uns et les autres, Samuel ou vous, Geneviève, ont décrit un conclave à la télévision. Il faut tout expliquer, ce que c'est que le Notre Père, ce que c'est que la prière, pourquoi ils avancent, qu'est-ce que c'est que la communion. Et c'est cette inculture religieuse, moi, qui me paraît vraiment un événement, une nouveauté par rapport à ce qu'on a connu il y a 30 ou 40 ans.
Mohamed, vous relevez cette inculture également, Mohamed Collin ?
Moi, je relève même une double inculture. Donc, une inculture sur le fait religieux. Ça, je partage parfaitement ce propos. Et d'ailleurs, chez les musulmans, on a coutume à parler de « shir Google », c'est-à-dire le moteur de recherche qui apporte des réponses aux questions théologiques. C'est dramatique. Donc, inculture sur la question du fait religieux et inculture aux médias. Parce que là, sur l'information, on ne sait pas aujourd'hui quels sont les 5 W, c'est-à-dire qu'est-ce qui authentifie une véritable information à cause des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une forme d'équivalence entre les producteurs d'information, des vrais journalistes ayant une carte de presse, et des personnes qui vont éditer sous l'anonymat à travers les GAFA. Et là, c'est une vraie catastrophe.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que je pense que tous les deux, on représente ce que c'est que de se battre au quotidien. Vous, avec un média, on en a parlé juste avant, avec un modèle économique fragile, deux personnes
petite
et demie
rédaction.
En contrat,
ouais,
petite rédaction, et des gens à la pige, et se battre tous les jours pour survivre. Et les anciens médias comme le nôtre, qui vont avoir 150 ans l'année prochaine, qui ont encore, c'est vrai, plus de 100 000 abonnés. Malgré tout, c'est une industrie très lourde qu'il faut continuer de faire vivre en, toujours, c'est la même dynamique, en renouvelant un lectorat constamment et en faisant la démonstration qu'il y a un intérêt, évidemment, à s'informer avec de vrais médias plutôt que d'aller chercher des semblants d'informations et partout sur les réseaux.
Un dernier pas de côté concernant, je dirais, la vie du christianisme en France au cours de ces 30 dernières années. Ça a été, sous la présidence de François Hollande, la loi Taubira et les grandes manifs contre le mariage entre personnes de même sexe. Il y a donc eu la manif pour tous, ce mouvement donc opposé au mariage homosexuel qui va organiser entre novembre 2012 et l'année 2013 plusieurs manifestations. Alors avec nous en ligne, Philippe Clancher, journaliste à l'hebdomadaire protestant Réforme, qui signera quelques temps plus tard chez Plomb « Mariage pour tous, divorce chez les cathos ». Bonjour Philippe Clancher.
Bonjour Geneviève.
Alors, divorce chez les cathos, quelles ont été les conséquences, Philippe Clancher, de cette manif pour tous, de ces manifs pour tous ?
Alors, cette manifestation, elle avait plusieurs aspects. D'abord, elle est basée sur une prise d'opposition assez claire de l'Église catholique qui, pour des raisons anthropologiques d'abord, mais aussi théologiques, s'est opposée à un texte de loi. Et là, c'est tout à fait logique, elle est dans son rôle. Elle a étudié le texte, elle a dit « Nous, en tant que catholiques, nous pensons qu'on ne peut pas accoler le terme de mariage à une union entre personnes de même sexe. » Bon, elle l'a fait souvent au cours de l'histoire sur un certain nombre de questions éthiques et de question morale. Et là, ce qui a été particulier, c'est que certains évêques ont ouvert la porte à une manifestation de rue qui n'est pas du tout la tradition catholique. Et c'est tombé un moment où tout un courant de l'Église identitaire qui a voulu attester la puissance de l'Église un petit peu en difficulté a utilisé ce combat-là, qu'on peut considérer comme un combat secondaire par rapport à d'autres menés par les catholiques, et s'est très très fortement mobilisé. Bon, il y a eu une récupération récupération politique aussi avec une droite un petit peu revancharde par rapport à l'arrivée de François Hollande au pouvoir, et ça a donné tout ce grand mouvement. Donc la difficulté en fait qui s'est posée, c'est que à la base l'Église ne voulait pas nécessairement opposer ce geste, et que pastoralement il y a eu des conséquences, puisque dans ces manifestations on a retrouvé des gens qui étaient simplement opposés à l'idée même de mariage, et puis des gens qui avaient des rapports compliqués avec l'homosexualité, et du coup il y a eu beaucoup de débordements et de violences en parole qui ont été très choquants et qui ont quand même assez considérablement divisé la communauté catholique.
Quelques mots de réaction à Samuel Lieven.
C'est vrai que 2013, ça a été un petit peu l'année terrible, à la fois dans l'opinion catholique et aussi, bon, il faut le dire, dans les médias catholiques. C'est-à-dire que quand on est un média, évidemment, on prétend contribuer au débat dans la société. Mais quand on sent qu'à l'intérieur même des rédactions, il y a une espèce de malaise sur une question centrale, et que du coup, ceux qui traitent de la religion, qui sont donc plus proches de l'institution parce qu'ils ont à la pratiquer, à la questionner, à enquêter, à la fois sur le terrain et puis aussi avec des interlocuteurs religieux, en l'occurrence catholiques, ça forme un petit monde à part qui à la fois connaît mieux ces questions et en même temps rentre dans une espèce de traitement plus, on va dire, plus subtil, et c'est mal compris par les autres qui peuvent parfois avoir une approche plus militante, carrément plus progressiste. Et donc, ça crée des tensions intérieures qui ne disent pas forcément leur nom. Et donc, ça met ces médias-là dans une posture d'autant plus difficile à assumer en tant qu'acteurs du débat dans la société. Donc, depuis, clairement, lorsque c'est la PMA qui est revenue...
Procréation médicalement assistée
en 2019, dans le débat, clairement, ça a à la fois été l'objet d'échanges, en tout cas je parle pour ma propre rédaction, beaucoup plus facile, beaucoup plus, il y a une volonté vraiment de se dire, bon voilà, on a aucun problème à aborder ces questions à l'intérieur de la rédaction, et surtout la méfiance absolue vis-à-vis de tout militantisme à cet égard, et on a bien senti que l'Église, même d'une manière générale, même l'institution, n'avait pas envie de monter au front, de tomber dans ce piège comme elle l'était tombée en 2013.
Pour le moment, je suis dans la désespérance de voir que de plus en plus de femmes se voilent. Vous savez, il y a des pays où il y a 90% de femmes qui se voilent. Je suis au désespoir de ne pas comprendre pourquoi. Pourquoi on confond le voile avec la religion? Pourquoi on confond la foi avec des signes extérieurs? On peut être tout à fait musulmane et ne pas porter le voile. Le voile n'est pas la religion. Il est une façon de dire au monde, voilà, je suis musulmane. Ce qui est une façon, d'ailleurs, c'est un sens qui inverse, en quelque sorte, la chose. Parce que le voile, c'est quoi? Le voile, c'est la pudeur, c'est l'anonymat, c'est pour qu'on ne vous voit pas. Or, quand vous êtes dans un pays comme la France et que vous passez dans une foule où les femmes ne sont pas voilées, vous êtes la seule voilée. On ne regarde plus que vous. Donc, vous inversez le sens du voile.
Fawza Azwari, donc journaliste à Jeune Afrique, écrivain né en Tunisie, rencontré juste avant son départ estival dans sa Tunisie natale, qu'elle a quitté donc dans les années 80 pour venir étudier en France la littérature à la Sorbonne. Elle nous raconte alors la France qu'elle rencontre dans ces années 80.
Cette décennie des années 80, moi, j'ai vécu une laïcité totale, je veux dire. J'étais dans un milieu où l'islam ne se voyait pas dans la rue. Il n'y avait pas encore l'affaire du foulard de Creil. Donc voilà, c'était et même, il y a eu la marche des beurs en 86. On ne l'a pas senti passer. Et de toutes les façons, c'était une marche qui ne revendiquait pas du tout l'identité musulmane ou islamique. C'est une marche pour une intégration dans la République. Donc là encore, on ne parlait pas d'islam. On a commencé à parler d'islam à partir des années 90. Et là, on l'a senti. Moi, j'ai choisi de venir dans un pays qui est laïque, dans lequel je ne voulais pas entendre parler de religion. Et puis tout d'un coup, avec les années, je n'entendais plus parler que de religion et je voyais un islam qui me rattrapait. Je voyais surtout de plus en plus des banlieues où on se voilait, des pratiques dans les rues, etc. Et je me disais à des moments, mais moi, je ne suis pas... Est-ce que je suis venue pour ça ? Est-ce que ça méritait le voyage d'arriver dans un pays où on reproduisait exactement les signes ostensibles de ta religion? Moi, j'avais une aspiration à la laïcité totale, parce que je sais que pour les femmes, c'est vraiment l'allié des femmes et du féminisme d'une façon générale, c'est la laïcité. C'est ça ce que je recherchais. Et je me retrouvais dans une sorte de boomerang où l'islam m'était jeté de nouveau à la figure.
Alors, Mohamed Collin, je me tourne naturellement vers vous pour votre réaction au propos de Fawzia Azwari.
Bah écoutez, moi je comprends sa réaction je comprends qu'il y a un malentendu. Et ce malentendu, il est très bien exprimé d'ailleurs à travers une mini-série qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui s'appelle Oussekine, qui a été produite par la plateforme Disney. Je n'ai pas besoin de rappeler la tragédie de Malika Oussekine. La co-autrice qui s'appelle Faïza Guen, à un moment donné, donc, il y a cette séquence qui est assez impressionnante. C'est lorsque la maman de Malika Oussekine revient au pays, donc en Algérie, à Oran, et c'est en 1977. Et elle se retrouve dans une administration. Et dans cette administration algérienne, elle, j'ai oublié de dire, c'est qu'elle arrive avec le hayek. Alors, c'est quoi le hayek ? C'est l'habit, le voile traditionnel algérien qui recouvre tout le visage. Et pourtant, en France, elle est vêtue normalement, on va dire. Mais lorsque elle arrive en Algérie en 77, subjectivement, elle, cognitivement, elle se dit « il faut que je mette le hayek, l'habit traditionnel ». Elle se retrouve dans l'administration et là, elle voit quoi ? Elle voit des jeunes algériennes en mini-jupe. Il n'y a pas de mots, mais on sent une dissonance cognitive totale. C'est-à-dire que l'immigration qui est arrivée en France est restée bloquée dans une image, dans le formol, on va dire, bloquée avec une tradition des années 40-50, alors que dans les pays d'origine, ils ont évolué. Et là, c'est admirablement, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de dialogue, mais l'image signifie tout. Alors le malentendu aussi, il y en a un deuxième, c'est que ce qu'on a appelé peut-être le retour vers le religieux dans les années 80-90, on a pensé que c'était un retour idéologique. Alors il a pu être exploité par les idéologies, mais souvent, parce qu'il y a eu aussi la question de la décolonisation. Et pour les Algériens vivant en France, prendre la nationalité française, c'était perçu comme un acte de trahison. Et le réinvestissement, on va dire, de la foi musulmane a permis l'acceptation, étrangement, de la francité. C'est-à-dire qu'on a pu négocier, dire aux parents, je prends nationalité française, je suis français et musulman.
Oui, c'est donner des gages, en quelque sorte.
Absolument. Et ça s'est fait, ça s'est opéré comme ça. Et quelque part, c'était une manière de dire « je fais à présent partie de la photo de famille qui est la France ». Voilà ce malentendu. Et ce malentendu, je le comprends très bien, est souvent mal compris par des étrangers qui viennent résider provisoirement en France et qui ne comprennent pas ce réinvestissement de la foi musulmane en France.
Alors, quand même, avec le développement, ça c'est un mot qui est apparu à la fin du XXe siècle, du communautarisme.
Oui, il y a eu cette forme de certains, ce que moi j'appelle les islamo-identitaires. Mais j'ai envie de dire, ce sont des conséquences de la mondialisation. Tout à l'heure, on parlait de la mondialisation. C'est le monde va tellement vite, très vite, il y a des ruptures, c'est une rupture anthropologique avec la digitalisation de nos sociétés, qu'on est obligé de se rattacher à des formes visibles qui rassurent les personnes.
À manger halal.
Manger halal.
L'explosion du marché halal.
Tout à fait, absolument.
Mais pour le capitalisme, au passage.
Hein. Voilà, parce qu'auparavant, les anciens, comme on disait, ils ne se prenaient pas la tête. Ils allaient dans n'importe quelle boucherie, ils disaient que c'était les boucheries des gens du livre, c'est-à-dire juifs ou chrétiens. Donc, c'est halal.
Et concernant l'affaire du burkini à Grenoble ?
On voit, d'une part, c'est instrumentalisé en réalité. Parce que, pour moi, ce que je pense, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir de revendication, entre guillemets, identitaire. C'est-à-dire, contrairement aux pays anglo-saxons, on doit avoir des accommodements raisonnables, non pas à l'échelle communautaire, mais à l'échelle individuelle. Voilà. Individuellement, on doit faire preuve de bon sens. Et le burkini, en plus, c'est un mot qui est horrible, enfin, pour moi. Mais il serait passé inaperçu si c'était l'affaire d'une personne. Sauf que la mairie met son grain de sel, et on le sait pour des questions électoralistes, ce qu'on appelle l'islam municipal. Ça,
Je ne connaissais pas ce terme-là. Intéressant,
et,
oui.
Et deuxièmement, il y a ceux qui sont cachés derrière le bois, ce qu'on appelle les islamo-identitaires, pour dire, vous avez vu, il y a de l'islamophobie.
Voilà, un terme aussi qu'on a bien vu apparaître.
Voilà, donc c'est de la récupération. Ouais. Alors que si on fait preuve de bon sens, on met en place des accommodements raisonnables à l'échelle individuelle, tout se passe bien.
On ne peut terminer cette émission de bilan de ces 30 années de faits religieux sans évoquer la poursuite au Proche-Orient de l'hémorragie des chrétiens d'Orient. Avec nous en ligne, Thomas Valu. Bonjour Thomas.
Bonjour Geneviève, bonjour à tous.
Vous êtes le producteur de l'émission Chrétiens orientaux sur France 2. Alors, cette hémorragie qui remonte en fait à la première moitié du XXe siècle, elle se poursuit avec la guerre en Syrie. Avant, il y avait celle, la guerre en Irak, avec Daesh notamment. Vous m'avez donné un chiffre, à Alep, 80% des chrétiens sont partis.
Oui, ça pourrait être la même chose en Irak aussi, quoi. À Bagdad, en 2003, il y avait 750 000 chrétiens, ils ne sont plus que 75 000 aujourd'hui. Voilà, quoi. C'est vraiment des chiffres très impressionnants. Et ces chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils partent finalement? Ils partent parce qu'il y a de la guerre, et donc il y a un climat d'insécurité. Il y a tous les, vous parliez de l'islamisme à l'instant avec votre invité, c'est tout ce qu'il y a autour de Daesh. On se souvient en 2014 de l'arrivée de Daesh dans la plaine de Ninive, où la plaine de Ninive s'est complètement vidée de ses chrétiens. C'est la même chose en Syrie. Donc on voit cette terre, cette terre ancestrale, là où le christianisme est né en partie. On voit la même chose en Syrie, on voit la même chose aussi malheureusement dans les contours de l'ancienne Palestine, où aussi beaucoup de chrétiens sont partis et continuent à partir, qu'ils soient du côté territoire palestinien ou du côté de Jérusalem. Jérusalem continue à se vider de ses chrétiens inexorablement. Et puis, on voit aussi dans d'autres pays, par exemple en Égypte, tous les attentats qu'il y a eu contre les chrétiens. On se souvient de l'église du Caire. On se souvient aussi de ces coptes qui ont été exterminés, il n'y a pas d'autre mot, par des islamistes sur cette plage en Libye. Voilà, tout ça, c'est triste parce que finalement, ce peuple, c'est plutôt des gens calmes, sereins, ces chrétiens d'Orient. Ils sont chez eux et on les chasse de chez eux.
Alors, il y a aussi... Et quelles conséquences précisément, leur départ, quelles conséquences pour la stabilité de ces régions?
Alors, les chrétiens ont une force, c'est qu'ils dialoguent avec tout le monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent dialoguer avec des musulmans sunnites, ils peuvent dialoguer avec des musulmans chiites, ils peuvent dialoguer avec des druzes, ils peuvent dialoguer aussi avec des juifs. Et donc, les chrétiens sont des gens qui facilitent les communications entre les différentes communautés. Et aujourd'hui, on a l'impression que ces communautés se referment de plus en plus les unes sur les autres, quoi, voilà. Et les chrétiens, qui étaient des gens qui passaient de dialogue d'une communauté à l'autre, partent. Donc c'est mauvais pour ces pays-là, quoi. Et puis, il y a aussi un problème de confiance. Tous les 30 ans, les chrétiens sont menacés tout le temps. Et je crois qu'il y en a qui en ont marre maintenant. Donc, ils quittent ces pays-là, quoi. Et pourtant, les chrétiens, on le voit par exemple au Liban, mais c'est aussi dans beaucoup de pays du monde dit arabe, les chrétiens, ils ont des écoles dans lesquelles ils accueillent tout le monde. La bourgeoisie musulmane au Caire, elle va à l'école de la Sainte Famille des Jésuites ou à l'école des Frères, qui sont des écoles chrétiennes. Dans le sud du Liban, vous avez des écoles chrétiennes où 95% des élèves sont musulmans. Et ça ne pose aucun problème. Et ça, c'est aussi une possibilité d'apprendre à le vivre ensemble.
Et la citoyenneté. Et la citoyenneté,
c'est-à-dire que chacun a les mêmes, une volonté que chacun ait les mêmes droits et les mêmes devoirs dans chaque pays, quoi.
Merci Thomas Valu pour ce regard sur les chrétiens d'Orient. Cette émission s'achève. Je vais faire un petit tour de table pour dire voilà, comment vous voyez notre métier d'informateur religieux dans 20 ans. Bernard Lecomte, qu'aurons-nous à raconter dans 20 ans ?
C'est très difficile à dire parce qu'on voit bien que depuis 30 ans, la religion, et notamment la religion chrétienne, avait un vrai rival qui était le communisme, le marxisme-léninisme sous toutes ses formes. Ce rival n'a pas été remplacé. Ça n'est pas les questions sociétales ou le woke ou même l'islam qui sont les rivaux de la religion chrétienne. Aujourd'hui, on entre dans une période de vide religieux. Et la grande question pour nous, les informateurs religieux, c'est qu'est-ce qui va remplir ce vide ? Est-ce que ce sont des dérives civilisationnelles, sociétales ou morales, ou est-ce que c'est au contraire un renforcement du noyau religieux quand on le prend dans un long moment? Est-ce que justement les graines d'espérance ne sont pas là, et est-ce que dans 20 ans nous n'aurons pas justement de nouvelles espérances, de nouvelles générations parties dans cette aventure qui s'appelle l'aventure humaine?
Samuel Yévan.
Oui, à la fois, je m'inscris, philosophiquement, éditorialement, totalement dans ce que Bernard dit. C'est-à-dire qu'il y a une institution, un moment de l'histoire du christianisme qui est en train de passer. À nous de l'accompagner et de le décrypter au mieux. Mais on voit déjà bien, pas tant des recompositions que des renaissances à l'œuvre un petit peu partout, qui sont moins le fait, encore une fois, d'institutions et de grands héros rassembleurs que d'initiatives individuelles, de recherches. On voit bien que la question du sens, elle est quand même majeure dans la société, et que c'est pas explicitement religieux la quête des gens, mais que quelque chose est là et donc demande à être rejoint. Donc c'est à la fois un savoir-faire pastorale de l'Église qu'elle a retrouvée en passant par d'autres canaux que les canaux traditionnels de la paroisse, de l'institution. Et puis, nous, médiatiquement aussi, on a à élargir le regard. C'est le cardinal Etchegaray, on en a parlé tout à l'heure, qui m'a fait rentrer dans ce métier parce que lors du jubilé des journalistes à Rome, sur la place Saint-Pierre en 2000, il a dit « Être journaliste, c'est porter le regard jusqu'où il y a un homme ». Et je crois que cette phrase-là, elle vaut quand même le coup d'être citée parce qu'elle est profondément chrétienne et elle signifie que c'est pas fini.
Mohamed Collin.
Alors moi, je m'inscris éditorialement sur ce qui vient d'être dit, et notamment le fait que je suis assez positif et optimiste. Je pense que vis-à-vis des religions, je pense qu'il peut y avoir une alliance, et plus que les religions, même vis-à-vis une alliance globale entre les religions et l'humanisme, athée même également, face aux ruptures technologiques et notamment au monde digital. Ça veut dire que ce qui va être important, à mon avis, c'est comment se reconnecter, redonner au sens et à notre environnement. Nous sommes des êtres géopoétiques.
Géopoétiques. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Je connaissais la géopolitique sur RFI souvent, mais pas géopoétique. Merci, Mohamed Collin. Merci, Bernard Lecomte. Merci, Samuel Yévan. Je remercie également France Bleu Auxerre pour ce duplex, et puis aussi à ceux et celles et ceux qui ont participé à cette émission, Faouzia Azouari, Philippe Clancher et Thomas Valu. Désormais, à partir de dimanche prochain, c'est ma consœur Véronique Guémard qui prend les rênes de Religion du Monde. Nos auditeurs ont entendu Véronique Guémard il y a 2 semaines sur le report du voyage du pape François en RDC et au Soudan du Sud. La République démocratique du Congo devait être son premier grand reportage pour Religion du Monde. Espérons que ce voyage très important se fera et que je pourrai alors le suivre comme auditrice. Chers auditeurs, je rejoins désormais en effet votre communauté, devenant moi-même une auditrice de RFI. Je vous dis toute ma gratitude pour votre écoute fidèle, près de 30 années avec vous, à réfléchir ensemble aux grandes questions existentielles et à leur traduction religieuse, à partager ce qui nous lie, d'une façon ou d'une autre, que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas, nous sommes en effet tous dans le même bateau. Ce fut une grande et passionnante aventure professionnelle et personnelle. Je vous dis au revoir.